coup d'œil chez Luzi. L'émission de Luzi, l'union des structures d'insertion dans l'un. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio B pour ce troisième coup d'œil sur la thématique ce mois-ci « Autonomie au féminin ». Pour en parler, je suis ravie de recevoir aujourd'hui notre invitée Emma Terrier. Bonjour Emma.
Bonjour.
Emma, vous êtes la créatrice de la marque et entreprise Les Tendances d'Emma, située à Belley. Les Tendances d'Emma conçoit des produits écologiques pour la maison en version zéro déchet, en favorisant le local et en invitant donc à interroger notre consommation au quotidien. Et l'année dernière, 10 ans après la création de votre entreprise, vous souhaitez monter un atelier d'insertion. Et donc c'est comme ça qu'Emma Seconde Chance est née, une entreprise d'insertion par l'activité économique en interne. Avant de vous donner le micro, Emma, on va écouter des personnes qui ont suivi une formation appelée Compétences clés autonomie au féminin, qui a été initiée par l'organisme GoOn en partenariat avec l'USI. Ces formations ont eu lieu cette fin d'année, certaines sont encore en cours. Il s'agit de formations en groupe qui visent à identifier les connaissances et les compétences de femmes en parcours d'insertion dans un objectif d'une plus grande autonomie au quotidien et tout en apportant aussi des bases juridiques et culturelles qui sont liées au droit du travail. Et je suis allée les rencontrer à Ambérieu-en-Bugey pour voir ce qu'elles retiennent de la formation et puis finalement ce que veut dire être autonome pour elles. Et donc nous écoutons d'abord Tina qui revient sur son expérience.
Je m'appelle Tina, je viens du Mali, je suis malienne, je suis réfugiée. Je suis en France depuis 2 ans et demi maintenant, en 2018. Je suis arrivée en 2018. Je suis arrivée à Bourg, j'étais là-bas pendant 1 an et demi. Après on a déménagé à Berry, là maintenant on est à Berry. J'ai quitté Mali, j'étais jeune, en 2012. On était au camp de réfugiés au Niger. Après, au Niger, en 2016, je commençais un peu à travailler pour les nutritions, pour les enfants. On pèse les enfants. On distribue à manger pour les projets ACTED. Après, en 2016, jusqu'à début 2018, on a fait les installations pour venir en France. Je suivais la formation pour apprendre à écrire et à parler bien français. Et après, pour essayer de trouver le travail. Et j'ai pris comment prendre rendez-vous un peu plus, parce qu'avant, je me débrouille, mais je ne savais pas comment faire. Et après, j'ai fait un cours pour le budget. Ça aussi, j'ai pris un peu parce qu'avant, je ne comprenais pas très bien. J'ai fait un cours pour comment remplir les chèques. Maintenant, ça va, si j'ai un chèque, je peux remplir moi-même.
Comme Tina, Noéline a suivi la formation compétences clés autonomie au féminin. Elle travaille au Jardin du Cœur à Ambérieu, un chantier d'insertion proposant une activité de production maraîchère à des personnes qui sont dans un parcours de retour à l'emploi. Les récoltes de Jardin du Cœur participent à la distribution de repas servis par les Restos du Cœur. Et donc, j'ai passé le micro à Noéline.
Je suis mariée, j'ai 3 filles et j'ai 42 ans.
Vous faisiez quoi à Madagascar ?
J'ai fait les bénévoles, fait les ménages à orphelinat et donner à manger les enfants.
Et qu'est-ce que vous avez appris pendant la formation ici ?
Oh, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, on a fait les demandes. On a appelé les 15, les 18 et les 112, les 16 pour les gens. Et on peut tousser ou on ne peut pas tousser. Il faut appeler les au secours, comme ça, les pompiers.
Irina, quant à elle, travaille à Boussole, un chantier d'insertion à Bourg-en-Bresse. Elle a souhaité se former pour améliorer son niveau de français et de compréhension du système administratif en France.
Pour moi, c'est un petit peu difficile, lire et écrire français, c'est ça. Je voudrais commencé à continuer un cours d'information. Oui, je voudrais bien adapter au français, ça. Maintenant, j'ai fait beaucoup quelque chose autonome. J'ai fait pour l'emploi tous les mois. J'ai fait trimestre à CAF, c'est tout. J'ai aussi ça étudié là-bas. Oui, après, j'ai lire un petit peu. Oui, j'ai lire, j'ai écrire un petit peu aussi.
Théodora, qui travaille également à Boussole, voulait gagner en autonomie au niveau de la compréhension et de l'expression du français, et aussi des procédures administratives.
À la formation m'a aidé beaucoup. J'ai mesuré un peu, écrit et lire. Je ne connaissais pas. Je parlais un peu, mais écrit, j'écrivais tel comme je parle. Et si j'écris, je te donne, vous ne pouvez pas lire. Ce n'est que moi-même, mais maintenant, je peux écrire, les gens comprennent ce que j'écris. Et je remplis moi-même le feu maintenant, du Pôle emploi, de ça, moi-même, je fais tout maintenant, grâce à la formation. Avant, c'est mon ami qui me faisait. Quand j'avais commencé à chercher du travail, tout c'est lui qui faisait tout. Remplir les feuilles, tout. Demander les cartes vitales, c'est tout. C'est lui. Mais maintenant, moi-même, je fais.
Emma, à l'écoute de ces témoignages, j'ai envie de vous poser une première question. Pourquoi est-il nécessaire, en 2020, de proposer des formations compétences clés autonomie au féminin et pas compétences clés autonomie au masculin ?
Eh bien, je me demande si c'est peut-être pas l'occasion de se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas les inventer. Pourquoi est-ce qu'en 2020, on est encore dans l'autonomie de la femme ? Parce que malgré le fait qu'on soit le pays des droits d'homme, le pays de la liberté, le pays de... il faut peut-être aujourd'hui en France qu'on aille vers une vraie sororité, en fait, finalement. Et ça, c'est quelque chose d'important à commencer à prendre en considération. On est depuis très, très, très longtemps le pays des droits de l'homme.
Oui, d'après une étude toute récente publiée en octobre 2020 qui s'intitule « Femmes et entrepreneuriat », les femmes représentent seulement 30% des chefs d'entreprise. Alors Emma, c'est quoi être une femme chef d'entreprise aujourd'hui ?
C'est avoir une vie très très spéciale pour une femme chef d'entreprise. Pour moi, d'abord, être avant-gardiste, parce que je suis persuadée que demain, on ira vers cette égalité-là, d'avoir la possibilité d'être chef d'entreprise, qu'on soit homme ou femme. C'est aujourd'hui encore que 30% de la population. Ensuite, il faudrait regarder quelles entreprises dirigent les femmes, parce que malgré le fait qu'on soit 30% être femme et chef d'entreprise... Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, au CAC 40, il y a une femme. C'est tout. Dans les entreprises qui sont au CAC 40, il y a une seule femme dirigeante. C'est vraiment pas beaucoup pour le coup. Et plus on monte vers des entreprises importantes, moins on trouve des femmes à leur tête. La bonne nouvelle, c'est qu'on est 30% à être chef d'entreprise. On doit aller vers le 50. Et pour répondre à votre question de qu'est-ce que c'est qu'être femme et chef d'entreprise, c'est, je pense... dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont normales, d'avoir cette approche très, très, très spéciale d'une femme chef d'entreprise qui va avoir, je pense spontanément, une approche très humaine, très empathique, très compréhensive de l'incidence d'une vie personnelle sur une vie professionnelle et de l'importance que l'ensemble soit cohérent et qu'on doit prendre en considération l'un pour l'autre et l'autre pour l'un, et que c'est cet ensemble qui permet d'avoir un équilibre avec un troisième équilibre qui, lui, est familial et personnel.
Oui, comme vous le dites vous-même, il n'est pas simple de conjuguer vie professionnelle et vie familiale, et cette double activité repose en fait souvent sur les femmes. L'idéal féministe était d'œuvrer pour l'émancipation des femmes. Mais l'autonomie économique y participe-t-elle vraiment?
Je pense que l'autonomie des femmes passe forcément par une autonomie économique. Parce que, on le sait trop bien, il y a des centaines et des centaines et des milliers de femmes qui, pendant des années, sont restées par difficulté économique de partir d'une situation qui ne leur convenait pas. La question aujourd'hui, c'est les femmes travaillent, elles arrêtent d'être à la maison, elles arrêtent de rester à la maison. Par contre, est-ce qu'elles sont conscientes que c'est un choix qui se fait à deux? Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui gérait dans le village dans lequel j'habite, qui me raconte qu'elle avait reçu une femme, enfin un couple, qui lui avait dit, bah voilà, on a eu un enfant et là je reprends le travail et donc j'ai besoin de trouver une nourrice. Et elle m'a regardée, elle lui a dit, alors je vais vous reprendre, si ça ne vous dérange pas, vous avez fait le choix à deux d'avoir un enfant, vous avez fait le choix à deux d'être deux à travailler, et vous avez fait le choix à deux d'avoir besoin d'une nourrice pour garder vos enfants. Et je pense que très souvent, en fait, nous nous voyons comme, mais nous-mêmes, comme je fais le choix de retourner travailler, et donc j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. La plupart du temps, on n'ose pas. Mais oui, je pense que pendant qu'on ne travaille pas, on est à la maison, on s'occupe des tâches ménagères, on s'occupe de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et peut-être que le jour où on se met à travailler, il faut savoir cette autonomie économique que l'on souhaite, que l'on va chercher, au service de quoi veut-on la mettre? C'est-à-dire que si c'est pour, au bout du compte, acheter à nos enfants plus d'affaires et leur permettre de partir en vacances et leur mais à quel prix, si on ne se dit pas, mais peut-être que sur cette partie-là, je peux me faire aider, en fait. Parce que finalement, c'était de l'argent que je faisais gagner au foyer aussi par ma présence. Ou de négocier avec son mari et de lui dire, mais est-ce que tu te rends compte que pendant que moi j'étais à la maison et que je ne travaillais pas, je m'occupais de tout un tas de choses. Comment fait-on? Et ce comment faisons-nous ensemble? Quel choix faisons-nous ensemble? Je pense que ça se parle avant d'aller chercher cette autonomie économique.
Et alors, comment les structures d'insertion peuvent-elles justement accompagner les femmes dans ce domaine?
Je pense que la grande, grande force des structures d'insertion, c'est vraiment d'aller regarder quelqu'un sur un plan global et ce qu'on ne fait pas, en fait, dans le monde du travail conventionnel. C'est-à-dire qu'on a notre vie privée, on a notre vie professionnelle et en fait, la structure d'insertion, elle va vraiment permettre d'accompagner l'être humain sur l'ensemble de ses plans, à la fois professionnel, mais également social. Donc, concrètement, déjà, il y a plusieurs types de structures d'insertion. Il y a des associations, il y a des entreprises. Moi, je peux vous parler de haut niveau entreprise d'insertion, mais je pense que les associations ont également leur rôle à jouer à leur niveau également. Au niveau des entreprises, on a cet aspect d'accompagnement social de la personne qui fait que, justement, on va avoir cette compréhension globale et cet accompagnement qui va être là au quotidien. Donc bien sûr qu'on va s'en rendre compte, bien sûr que, parce que justement on fait ce travail-là, on y est sensible. Et effectivement au niveau des femmes, c'est une part importante forcément de notre travail. Ça peut être aussi simplement de voir un chef d'entreprise féminin, c'est-à-dire que, est-ce que moi j'ai le droit d'aller travailler? Est-ce que moi j'ai le droit de... Ah mais il y a même des gens qui ont le droit de monter leur entreprise. Enfin, je trouve ça juste génial. Et justement, c'est en montrant qu'on peut et que c'est possible et qu'il faut qu'on soit plus de 30% des chefs d'entreprise à être des femmes, qu'on montrera à des femmes qu'elles peuvent travailler, qu'elles peuvent être autonomes, qu'elles peuvent être... au contraire, c'est normal. C'est normal en fait. Il faut arriver à montrer que c'est normal.
Pour finir, un mot sur les tendances d'Emma et Emma Seconde Chance?
Les tendances d'Emma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a été créée il y a 11 ans. Que j'ai créée il y a 11 ans, en fait, dans un salon, au départ. Donc, on peut partir de rien, déjà. Et ça, s'il y a un message à retenir, c'est à la portée de tout le monde, en fait. On peut tous y arriver, parce que c'était le principe au départ des tendances d'Emma. On est vraiment parti de rien du tout. En parallèle de ça, les tendances d'Emma servent à accompagner chacun dans la réduction des déchets en disant à tout le monde, mais vous en êtes capable. Vous pouvez, à votre petit niveau, à chacun à son niveau, on peut remplacer tout un tas de produits du quotidien qu'on jette habituellement par des produits qu'on va réutiliser. Et la présentation de nos produits se fait sous forme de kits prêts à l'emploi, où on a la boîte pour les mettre, le filet pour les jeter quand ils sont sales, et ensuite on les met dans la machine. Même au niveau de la production de nos produits, on peut participer à un projet un peu plus grand qui est passé par les centres de détention, par un centre de détention avec qui on a créé un atelier dans un premier temps en travaillant à la réinsertion des détenus. Et puis depuis octobre 2019, via ce nouvel atelier qui s'appelle Emma Seconde Chance, qui a comme vocation d'accompagner justement des gens vers un retour à l'emploi durable. Voilà.
Un grand merci, Emma Terrier, pour ces précisions et pour avoir abordé avec nous cette question de l'autonomie dont on pourrait finalement parler très longtemps. Le podcast de cette émission sera en ligne dès lundi prochain sur la page de Coup d'œil chez l'USI sur le site internet de Radio B. Retrouvez aussi sur l'usi01.fr les cycles de formation compétences clés dont nous venons de parler, ainsi que des informations sur l'offre régulière d'ateliers mobilité et de sensibilisation aux outils du numérique, qui ont également pour vocation d'ouvrir les champs d'autonomie et d'employabilité. Mais gardons cela pour une prochaine chronique. En attendant, bonne fin d'année à toutes et à tous. Merci, et on se retrouve au mois de janvier pour un prochain coup d'œil.